Bonjour à tous. J'ai adoré ce premier roman que je vous invite à découvrir cette semaine. Il y a certes un petit peu de retenue dans l'écriture d'Anna Camille Gabriel, mais comme souvent dans un premier roman, ce n'est pas évident de se lâcher quand on ne sait même pas si un éditeur prendra le risque de vous publier et si les lecteurs seront au rendez-vous. Malgré cela, Mercœur des démons est un roman qui vous kidnappe bien rapidement et je sais de source sûre qu'il y aura une suite à cette histoire puisque le projet se porte sur une trilogie. Anna Camille Gabriel est un pseudonyme. Le choix de ses trois prénoms pour signer ses romans est une véritable histoire romanesque. Il s'agit de ceux de trois femmes de sa famille qui ont marqué son enfance. Ses deux grands-mères, chez qui elle passait ses vacances en Bourgogne et dans le Morvan, et une grand-tante entourée de mystères et de voyages. Née en 1962, elle a toujours été attirée par les livres et c'est en fouillant dans les bibliothèques de ses aïeuls qu'elle a déniché des pépites qu'elle ne comprenait pas toujours ou des histoires sur la mythologie grecque. Originaire de Mâcon, son bac en poche, elle poursuit ses études à Lyon dans le tourisme et travaille aujourd'hui dans la fonction publique. La naissance de ce roman est un défi qu'une amie lui a lancé et elle a bien fait parce que si vous le lisez, comme moi, vous vous régalerez. Quatre copines s'accordent un break et décident de passer un week-end ensemble au vert. Elles louent un chalet dans un village reculé en montagne, au pied d'une falaise. Lorsqu'elles arrivent à Mercœur des démons, la neige tombe à gros flocons et le chemin qu'il leur reste à parcourir n'est pas de tout repos. Quand tout à coup, une énorme silhouette aux yeux jaunes leur coupe la route et leur fait perdre le contrôle du véhicule. Hallucination collective ou réalité ? Elles n'en savent rien, mais elles sont bien en peine avec leur voiture accidentée. Le dépanneur qu'elles ont pu joindre les prend en charge et les dépose au bar du coin en attendant de leur trouver une solution. C'est ainsi qu'elles font la connaissance de quelques personnages incontournables du village. La tenancière du bistrot sourit chaleureusement aux nouvelles arrivantes et les installa à une table. Puis, elle s'assit avec elles. Rachel raconta leur mésaventure. Lucienne, un peu surprise, mit les élucubrations des jeunes femmes sur le compte du choc de l'accident et de la tempête. Elle se leva et leur servit des chocolats chauds avec une goutte d'eau-de-vie pour les revigorer car elles étaient transies de froid. Les quatre amies commencèrent à se détendre. Elles souriaient bravement aux clients qui étaient attablés en essayant en vain d'établir une conversation. Au fil de la soirée, l'établissement se vida et bientôt, il ne resta plus que les quatre femmes, Lucienne et un homme âgé. Au regard perçant. Georges finit par revenir et leur donna le double des clés d'un vieux 4x4. Elles le remercièrent et allèrent payer leur consommation en pouffant. Le vieil homme au regard perçant se leva et quand il fut sur le pas de la porte, il se retourna en dardant son regard sur les quatre amis. Il leur lança en guise d'avertissement. « Il ne vous arrivera rien de bon dans cet endroit maudit. Fuyez ou vous disparaîtrez. » Il se retourna et sortit en maugréant dans la nuit. Un silence de plomb s'abattit à l'intérieur de l'établissement. Lucienne et Georges se taisaient, mal à l'aise, et les quatre amis étaient sidérés. Le vieux avait parlé sur un ton menaçant et glacial. À ce moment-là, une voix qui semblait provenir du fond du café s'exclama « Moi non plus, ils ne m'aiment pas ici. C'est parce qu'on n'est pas nés chez eux. » Les amis se retournèrent en même temps, en sursautant, et virent un homme sortir de l'ombre. Elles ne l'avaient pas remarqué auparavant. Grand, très brun, il avait une démarche souple. À son tour, il franchit le seuil. Il se retourna et leur sourit. Médusées par les événements de la soirée, les jeunes femmes partirent rêveuses en pensant au sourire renversant de l'inconnu. Ce brin ténébreux, c'est Wolvéric, un homme qui a une histoire toute particulière, qui a traversé les âges, mais ne fait pas le sien. Son regard pénétrant va hanter les quatre jeunes femmes. Valou, la plus connectée de toutes, va même avoir l'impression qu'il communique avec elle par télépathie. Au fil des pages, on apprend l'histoire de chacun des personnages et l'on comprend même pourquoi le vieil homme de mauvais augure est si maussade, pour ne pas dire mauvais. Par pure vengeance, il va même orchestrer la mort des étrangères lors d'une avalanche de tous les diables. Un roulement sourd retentit et s'amplifia. Les quatre amis se retournèrent en même temps pour voir ce qu'il se passait. Elles comprirent tout de suite. Une énorme vague blanche déferlait de la montagne. Elle venait à une vitesse vertigineuse. Prise de panique, Rachel accéléra. La voiture fit une embardée et se mit à glisser. Elle était devenue incontrôlable. Les filles hurlèrent quand la voiture commença à faire un tête-à-queue et que la vague blanche les rattrapa. La Méhari fut emportée par l'avalanche et partit en tonneau. La chute leur sembla durer une éternité. Quand tout se stabilisa, la voiture était couchée et la neige la recouvrait entièrement. « C'est fini, je crois. Tout le monde va bien ?» s'inquiéta Indira. Elles avaient été secouées, mais elles s'en sortaient indemnes. « J'ai l'impression d'être passée dans une essoreuse, » confia Valou. « Il faut que l'on sorte de là rapidement. Mais où se trouve l'issue ?» Le vieux Ginervo se hâtait de rentrer chez lui, pestant contre les éléments. Un rictus déformait son visage aux yeux petits et enfoncés dans leurs orbites. Il avait réussi et il s'était vengé de ce monstre. Lui avait vu son véritable visage, mi-homme, mi-bête. Enfin, il avait réussi à l'atteindre. Il souffrirait de la perte de cette fille, mais personne ne pourrait jamais rien prouver. Un accident de voiture, c'était malheureux. Mais que pouvait-on y faire? Ce Volvéric avait fait de sa vie un enfer. Il commença à atteindre sa propriété. La maison était dans l'ombre, mais il connaissait le chemin par cœur. Il introduisit la clé dans la serrure, alluma et souffla sur les braises encore rouges pour que le feu de la cheminée reprenne. Il attrapa une bonne bouteille de vin. Il avait bien mérité de fêter sa victoire. Il s'affala dans un fauteuil. Dans ses yeux brillait une lueur de joie mauvaise. Il jubilait. L'ombre se détacha du mur du fond et attrapa le vieil homme par le col. Il le souleva de terre et approcha son visage du sien. Ses yeux noirs terrifièrent le vieux Giverneau. Il sentit son souffle sur le visage. « Qu'as-tu fait, vieille carne? Je t'ai vu trotter comme un jouvenceau et là tu ricanes en buvant ton vin mauvais. Qu'as-tu fait ?» Ginervo se mit à trembler. « Rien ! Je suis un pauvre vieux maintenant, je ne peux plus nuire à personne. Je me dépêchais juste de rentrer à cause de la tempête et le verre de vin, c'était pour me réchauffer. » Volvéric sonda le vieil homme de son regard noir. Celui-ci mentait, il le sentait à sa respiration et à sa transpiration. D'un geste d'énervement, il projeta l'homme contre le mur qui s'effondra dans un cri. Du sang coulait de son crâne et son bras formait un angle bizarre avec son torse. Ce vieux bougre ne sera pas le seul mort, mais quelques-uns en réchapperont tout de même. J'ai hâte de découvrir le deuxième volet de Mercœur des démons et de savoir ce que deviendront les survivants.